salue les rebelles intelligents. Alors, après Tokyo et Hakone, me voilà ici à Kyoto. Et j'en profite pour répondre à une question de Mélissa Lemèche qui me dit « Salut Olivier, peux-tu nous partager ton expérience d'investisseur immobilier à Londres ? Quelle a été ta stratégie ? Quel quartier conseilles-tu pour de futurs investisseurs ?» Alors, je suis très heureux que tu m'aies posé cette question, Mélissa, puisque du coup, je vais pouvoir rentrer dans les détails de ma stratégie d'investisseur immobilier à Londres. Tu vas voir que c'est ultra perfectionné, puisque bah, en gros, je n'ai absolument rien investi du tout à Londres. J'ai investi donc dans l'immobilier en France, j'ai investi aux États-Unis et je vais bientôt investir au Québec, mais rien du tout à Londres. Cette ville est trop chère, il y a une bulle immobilière en fait à Londres. Les prix sont juste démentiels. C'est pas un marché que je trouve attirant, même si effectivement je vis à Londres. Donc normalement, si je devais suivre le conseil de base qu'on donne dans l'immobilier, à savoir d'investir dans les quartiers qu'on connaît, eh bien je devrais investir à Londres. Mais voilà, c'est pas une stratégie que je poursuis. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésitez pas hein, si vous avez aimé, à cliquer sur j'aime juste en dessous et puis à la partager. Je vous dis à demain pour la prochaine. Bon, évidemment, vous vous doutez bien que si je fais cette vidéo, c'est pas pour vous dire ça. J'avais déjà partagé avec vous dans une vidéo précédente justement quels étaient mes investissements et donc notamment le fait que j'ai 6 appartements en France, un appartement à Miami et que je vais bientôt acheter un immeuble au Québec. Et j'ai fait pas mal de conneries dans ces investissements-là. Déjà, j'ai investi dans des secteurs que je connais pas. Je l'ai fait en conscience pour différentes raisons et la raison pour laquelle j'investis à l'étranger, c'est parce que je veux diversifier mes investissements non seulement dans le type d'investissement que c'est, mais aussi dans les zones monétaires. Parce que voilà, je trouve que c'est une assurance. On ne sait jamais, en cas de grosse crise dans la zone euro, bah, au moins j'aurai une source de revenus en dollars canadiens, une source de revenus en dollars américains. Et inversement, voilà, si c'est quelque chose qui touche l'économie américaine, qui préserve un petit peu la zone euro, je serai protégé. Mais ce qui est aussi très important quand j'investis, c'est que j'ai une stratégie 20-80 où je veux vraiment donc me focaliser sur les 20% qui me rapportent 80%. Et je veux absolument pas passer du temps à gérer ça ou en tout cas le minimum possible. Donc, je vais partager avec vous la stratégie par laquelle j'ai commencé à m'initier à l'immobilier. Et en fait, je me suis posé la question. Je me suis dit, voilà, c'était déjà en 2012, quelque chose comme ça. Comment je peux faire pour investir dans l'immobilier sans que ça me prenne trop de temps? Et alors, pour moi, la solution que j'ai trouvée à l'époque, c'était de déléguer un prestataire. Or, j'avais lu un livre, le livre d'Élise Franck, « Comment je suis devenu rentière en 4 ans ». Et en gros, dans ce livre, Élise partage sa stratégie. C'est ce qu'on appelle le « home staging ». Donc, c'est quelque chose qui est assez développé aux États-Unis, mais pas encore beaucoup en Europe. Et donc, ce que faisait Élise, ce qui lui a permis de devenir rentière en 4 ans, c'est qu'elle achetait des appartements qui étaient en mauvais état, qu'elle les retapait et qu'elle les faisait décorer par une décoratrice d'intérieur pour que ce soit vraiment, vraiment design. Et du coup, ça lui permettait de louer des appartements à un prix supérieur au prix du marché parce qu'il y avait tout simplement un effet coup de cœur de la part des gens. Donc, ils étaient prêts à mettre un petit peu plus d'argent que le prix normal. Il se trouve qu'Alice Frank a, suite au succès de son livre, a ouvert une agence, Alice Frank Conseil, sur justement pour permettre de faire ça, c'est-à-dire qu'elle proposait cette prestation. Donc, moi, je l'ai rencontré, j'ai lu son bouquin, je l'ai rencontré à Paris et je me suis dit, ouais, c'est intéressant. Le concept d'Elise Frank, c'est clé en main. Vous avez juste à lui confier une mission, voilà, vous payez 200 euros pour ça, et elle s'occupe de trouver l'appart, de le retaper, de le décorer, et elle vous garantit un locataire dedans à la fin avec le loyer qu'elle vous a promis. Voilà. Donc franchement, sur le papier, ça a l'air génial. Je me suis dit, waouh, bah voilà, moi qui cherche un moyen d'investir efficacement et en mode 20-80, je vais me lancer. Mais on va commencer par quelque chose de simple. Je vais faire un petit test en prenant un petit appartement, tranquille. Et ça a été la première erreur que j'ai faite. Je lui ai dit, on va investir sur Paris parce que je vis à Lille. À l'époque, je vivais à Lille. Et comme ça, si j'ai un souci, eh bien, je vais pouvoir me déplacer rapidement. En tant que tel, c'est pas une erreur que de dire de choisir Paris comme secteur, pas forcément. Mais c'est le raisonnement, là aujourd'hui, ce raisonnement, ça me fait rigoler. Parce que dans les faits, j'avais pas envie de façon de m'occuper de gestion locative et je voulais déléguer cet aspect. Donc je savais que j'allais confier eh bien, la gestion de cet appartement à une société. Donc quelque part, dans ce cas-là, quel que soit l'emplacement, c'est pas très important. Je suis pas censé devoir me déplacer. Donc c'est l'erreur que la première erreur que j'ai faite, c'est de prendre un critère qui finalement n'était pas un critère de rentabilité économique alors que j'aurais dû. Bon, heureusement finalement, à ce niveau-là, ça s'est bien passé puisque l'appartement est très bien situé, dans le 10e arrondissement à Paris, juste à côté du métro. Donc ça, il n'y a pas de souci, ça reste Paris. C'est quelque chose, voilà, c'est un appartement qui trouve facilement des locataires et qui trouve facilement preneur si je veux le revendre. Je vais en reparler de ça. Donc cette première opération s'est bien déroulée, tout a été très rapide, je crois qu'en 6 mois c'était fait, donc même moins de 6 mois, donc c'était vraiment bien. J'étais content, il y a eu un locataire qui était là au moment prévu, moi j'ai eu quasiment rien à faire à part signer des papiers. Voilà, j'étais vraiment content. Alors c'était pas un appartement qui avait une rentabilité qui permettait d'avoir un cash flow positif. Donc un cash flow positif, qu'est-ce que c'est? C'est quand vous avez les loyers que paye le locataire qui suffisent à rembourser le prêt bancaire et à payer toutes les charges. Là, en l'occurrence, je suis à 6,5% brut sur cet appartement, ce qui est déjà très bien sur Paris, mais ça veut dire que je devais mettre un peu d'argent tout le temps. Et ça, c'est quelque chose d'important que j'aimerais partager avec vous. Quand vous faites comme ça une stratégie d'investissement immobilier, faites des tests comme ça, à petite échelle, c'était à petite échelle par rapport à mes moyens. Et puis voilà, et en sachant que la banque a investi, enfin a prêté à peu près quasiment 98% de la somme, j'ai fait un petit apport, mais pas grand chose en fait. Et quand j'ai vu en fait le succès de cette expérience, je me suis dit, bon ben on va aller encore plus loin. Et c'est là où je me suis un petit peu emballé. Surtout que je ne me suis pas vraiment posé la question de comment on définit qu'une opération est un succès. C'est là aussi où je n'ai pas été assez clair dans mes objectifs. Ce n'est pas très intéressant d'avoir un appartement en cash flow négatif en fait. Même si c'est la norme pour la plupart des gens qui investissent dans l'immobilier, moi je suis un rebelle intelligent. Normalement, j'aurais dû viser dès le départ un appart qui avait une renta d'au moins 8% pour pouvoir avoir ce cash flow positif. Donc, est-ce que c'était un succès ou pas? Aujourd'hui, je me poserai la question et de toute façon, je ne me serais pas lancé dans une aventure comme ça. Mais bon, à l'époque, je me dis, ah, ok, c'est cool. C'est là où j'ai mon idée de génie, voilà, où je m'emballe un petit peu. Je me dis, bon, ok, Elise Frank, c'est génial. En fait, sa prestation, c'est 8% du prix, donc c'est quand même pas rien. Et je me suis dit, ok, ce qu'on va faire, c'est que je vais aller négocier avec ma banque pour qu'il s'engage sur 10 appartements. Je vais aller voir auprès d'Elise Frank. Pour que je m'engage sur 10 appartements et après je vais tout simplement négocier à la baisse sa prime, parce que si je peux faire passer de 8% à 5% par exemple, c'est quand même sur le prix d'achat d'un appartement, c'est pas rien, ça va augmenter la rentabilité. Donc je vais à ma banque qui me suit parce que je suis un très bon client et que j'ai pu lui montrer que la première opération n'était pas si mal. Je vais voir Alice Franck qui est d'accord sur le principe et j'ai quand même, encore une fois, été prudent, c'est-à-dire que je lui ai dit « Ok, je m'engage sur 10 appartements, mais d'abord, on va en faire 5 et on verra comment ça se passe. Hein, on fera les 10 si les 5 premiers, ça se passe bien. » Voilà, j'ai été très clair là-dessus. Bien, on a pris, vous verrez que finalement, toutes mes erreurs, à chaque fois, ont été minimisées par le fait que j'ai toujours été prudent. J'ai toujours aussi investi de l'argent dont je n'avais pas besoin. Et ça, c'est un principe de base dont je vous ai parlé justement dans comment commencer à investir en partant de zéro. Vous devez toujours investir de l'argent que vous n'avez pas besoin. Et d'abord, vous devez vous constituer un fonds d'urgence qui vous permet de tenir 6 mois à 1 an sans salaire en cas de problème. Voilà, parce que en cas de coup dur, des fois, vous devez sortir une grosse somme pour une raison X ou Y. En suivant ces principes de base, même si vous faites des grosses erreurs à côté, elles ne vont jamais être fatales, elles ne vont jamais être vraiment… elles ne vont pas être susceptibles d'avoir un gros impact négatif sur votre vie. Ça va être casse-pied, mais sans plus. L'erreur finalement qui est intrinsèque dans ma stratégie, ça a été à un moment de trop faire confiance et de trop déléguer. Même si je l'ai fait progressivement, même si j'ai rencontré la personne, etc. Elise m'a dit, voilà, je pense qu'on peut trouver des rentabilités meilleures. Il y a des super quartiers en dehors de Paris. Moi, je te recommande Corbeil-sur-Essonne. Tu vas voir, c'est génial, on part là-dessus. Donc j'ai dit ok, et ça c'était ma première erreur parce que c'est vraiment une ville de banlieue voilà, a priori qui n'intéresse pas grand monde parce que je peux vous le dire maintenant, ça a été beaucoup plus dur de trouver un locataire pour cet appartement. En plus, il a été mal choisi, hein, c'est l'agence Alice Frank qui l'a choisi. Il a été mal choisi, ce qui fait qu'au bout d'1 an il est parti, il y avait quelque chose comme 4000 euros de travaux à faire parce qu'il avait tout, mais voilà, il est tout dégueulassé. Alors ça fait partie des risques de l'immobilier, mais quand même. Après, on a mis quand même un certain temps à retrouver un locataire et… pour tout vous dire, je dévoile un petit peu la fin, mais j'ai commencé à vouloir revendre certains de ces appartements parce que ça a été un peu la descente aux enfers avec Alice Frank. L'appartement à Paris, j'ai trouvé j'ai eu une proposition ferme de quelqu'un qui veut l'acheter cash sans prêt en quelque chose comme même pas un mois, tandis que Corbeil, j'attends toujours. J'ai reçu absolument aucune proposition, il n'y a même pas eu de visite. Deuxième erreur, ça a été donc de faire trop aveuglément confiance à quelqu'un qui avait finalement un intérêt financier dans l'affaire. et qui du coup m'a conseillé des trucs un petit peu expérimentaux, on va dire ça comme ça. Vous voyez, j'aime pas du tout critiquer les gens en public, c'est vraiment pas mon style. Je veux dire, je pense qu'on est tous, on peut tous s'améliorer. Mais j'ai aussi reçu récemment un message qui quand même m'a fait réfléchir un petit peu. Je vais vous le lire. Donc c'est un message de Michael qui me dit: bonjour Olivier, ton livre me passionne, il est excellent, je te suis depuis longtemps sur YouTube, ok. Merci de faire tout ce que tu fais, tout simplement. Grand respect, je m'oriente vers l'investissement immobilier. D'ailleurs, je rencontre Élise Franck la semaine prochaine. J'ai des amis qui ont fait un projet avec elle et qui sont très heureux. Le fait que tu aies travaillé avec elle m'a rassuré également. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, waouh, ok, il y a un problème là. Parce que j'ai recommandé Élise Franck sur cette chaîne et aussi sur mon blog des livres pour changer de vie. Au moment où j'étais content, donc suite à mon premier investissement. Mais depuis, ça a été la descente aux enfers. Vraiment, c'est plus du tout une société que je recommande. Et j'aime pas critiquer les gens en public, mais j'ai aussi un devoir de responsabilité par rapport à mon audience et justement au fait que j'ai recommandé une personne qu'aujourd'hui je recommande plus. Dans cette vidéo, je veux partager avec vous mes erreurs. J'aime pas pointer du doigt, mais je tiens aussi à dire que voilà, j'ai eu vraiment une très mauvaise expérience avec Élise Franck. J'espère que je vais plus recevoir de messages comme celui de Michael qui en gros se dit rassuré par le fait que j'ai travaillé avec elle. Donc s'il vous plaît, si vous connaissez quelqu'un qui veut travailler avec Élise Franck juste, enfin entre autres parce qu'il sait que j'ai travaillé avec elle et que ça la rassure, dites-lui de voir cette vidéo. Après, il fera son propre avis. Et encore une fois, ça reste mon avis personnel. Il y a des clients d'Élise Franck qui sont contents. La preuve, lui a des amis qui sont contents. Donc voilà. Comme je vous ai recommandé Élise Franck, c'est aussi mon devoir à un moment de vous dire « Ok, j'ai fait une connerie. Finalement, je la recommande plus. » Mon erreur, ça a été de trop faire confiance, de pas assez contrôler, de trop vouloir déléguer. J'ai été un petit peu… je me suis trop emballé dans ma stratégie 20-80 finalement. C'est intéressant finalement d'explorer aussi la limite du 20-80. On pourrait en parler pendant 20 heures. Et encore, bon, l'appartement de Corbeil, c'était déjà un pas en avant dans l'enfer. Mais donc c'était tout premier des 5, hein, donc le deuxième appartement. Et après, là, ça a été vraiment la descente aux enfers. Après, la société Élise Franck et s'est embarqué dans une aventure qu'il ne maîtrisait absolument pas, puisqu'en gros, Élise m'a dit « Hey, on a un nouveau concept génial, on va acheter un appartement normal, on va le séparer en deux, ça va faire une déranta de ouf, tu vas voir, c'est génial. » Donc sur le papier, encore une fois, ça avait l'air super, sauf que ben ça ne s'est pas passé du tout comme ça. On a donc acheté deux appartements, enfin un appartement à Marseille, un autre à nouveau sur Corbeil. Élise Franck, sa société, ne maîtrise absolument pas la séparation des appartements. En gros, quand on sépare un appartement, c'est compliqué. Il y a des tas de démarches à faire. Il faut prévenir le syndic, il faut avoir des autorisations. Et ça passe, il faut séparer les compteurs EDF, on crée un nouveau. Et ça passe par une société qui s'appelle ERDF et qui a en fait un monopole sur l'installation de nouveaux compteurs électriques. Et qui dit monopole, souvent, dit manque d'efficacité, lourdeur administrative. Et là, ça n'a pas loupé. Ça a été la catastrophe. Pour tout vous dire, hein, je vous disais, le tout premier investissement à Paris, ça a mis 6 mois entre la signature chez le notaire et la livraison du bien terminé avec le locataire dedans. Là, le dernier, donc les deux derniers, l'appartement que j'ai acheté à Corbeil et qui a été séparé en deux, entre la signature chez le notaire et la fin des travaux, je ne parle même pas de la livraison avec le locataire, il s'est écoulé 1 an et demi. 18 mois. Alors, je ne sais pas si vous imaginez, heureusement que j'investis vraiment de l'argent dont j'ai pas besoin et que je gagne suffisamment bien ma vie pour pouvoir me permettre de rembourser un prêt bancaire comme ça pendant 18 mois. Mais imaginez la personne lambda qui fait un investissement comme ça et qui se retrouve à devoir payer un prêt bancaire pendant 18 mois parce qu'il y a des retards incessants. Et ça, c'est clairement la faute de la société Élise Franck qui a pas su gérer la séparation et tout ça. Bon, bref, puisque je dis à Élise, tu te rends compte, heureusement que j'ai de l'argent. Et tu te rends compte comment tu me traites et à quel point c'est inefficace alors que je suis quelqu'un, déjà je suis un client à toi et je suis quelqu'un de connu, tu sais que j'ai une audience et tout ça, mais comment tu traites tes petits clients, tes petits entre guillemets, hein, tes petits clients normaux qui ont pas de présence sur le web et donc à la limite que tu crains moins quelque part, enfin donc tu crains moins de pouvoir mal les gérer. Enfin, vous avez compris, mes erreurs, ça a été trop de délégation, pas assez de contrôle, trop de confiance et surtout trop de confiance à un intermédiaire qui avait un intérêt financier dans l'affaire. À partir du moment où vous confiez un travail, des choses comme ça stratégiques importantes à un intermédiaire qui a des intérêts financiers, il faut se méfier. Ça ne veut pas dire que forcément cette personne va pas être digne de votre confiance, mais pour faire confiance, pour le coup, il faut faire plus de contrôle. J'aurais dû aller visiter les biens. J'ai pas visité, je veux dire, voilà, j'étais trop dans ma démarche 20-80. J'aurais dû demander avant, est-ce que Elise, tu as déjà fait des séparations d'appartements, comment ça se passe, est-ce qu'il y a des spécificités par rapport à ça, etc., etc. Mais voilà, j'étais un petit peu naïf. J'étais le débutant, je pensais avoir trouvé quelqu'un de bien, de confiance, et dans les faits, voilà, j'ai perdu beaucoup d'argent. Je me suis retrouvé avec des biens qui sont difficilement vendables, donc pas dans des zones un petit peu mauvaises. En plus, la gestion locative que j'ai aussi confiée à Lise Franco au début, ça a été la catastrophe. Donc voilà, leçon apprise. J'ai trouvé une société sur Paris qui est beaucoup plus sérieuse dans la gestion locative, c'est la société MRZ. Donc voilà, si ça vous intéresse, je vous mets le lien dans la description. Pour l'instant, voilà, j'y trouve beaucoup, beaucoup plus sérieux. Après, ils sont pas parfaits, hein, c'est comme pour tout. Mais vraiment, voilà, c'est Cédric Anissette qui me les a recommandés. Et je le remercie beaucoup parce que effectivement, ça a été le jour et la nuit dans la gestion locative. Donc voilà, bon, cette vidéo, c'est pas. Voilà, j'aime pas pointer du doigt, mais je partage avec vous cette expérience. Et je pense que ça va aussi être utile pour vous d'apprendre de mes erreurs. Hein. Rappelez-vous, récemment, je partageais avec vous que l'erreur de beaucoup trop de gens, c'est qu'ils se basent trop sur leurs erreurs et pas assez sur les erreurs des autres, et qu'on apprend beaucoup plus vite en apprenant des erreurs des autres. On a un peu trop tendance à parler de nos succès et pas assez de nos échecs. Donc, c'était aussi important pour moi de partager avec vous ce genre de choses. Je suis tellement dégoûté de ces appartements que je décide d'en revendre au moins plusieurs. Donc, je vous l'ai dit, celui de Paris, là, j'ai déjà une proposition que j'ai acceptée. Celui de Corbeil, on n'en est pas encore là. Et puis, il y a les deux de Corbeil aussi. Il faut trouver un locataire. Et j'ai dit à la société Lise Franco que moi, je ne veux plus entendre parler de vous. Je confie la mise en location à la société MRZ et puis on verra comme ça. Et je pense même, pour tout vous dire, que je vais partir en procès avec eux parce que je trouve qu'ils sont vraiment moqués du monde. Faites-vous votre propre opinion. Il y a d'autres gens qui sont contents. Il y a aussi d'autres gens qui sont mécontents. Hein. Je vous ai mis le lien dans la description. Il y a aussi mon ami Aurélien Amaker qui avait investi chez Lise Franco. Et on lui avait promis une renta de 8%, au final il s'est retrouvé avec une renta de 5,5. Donc pareil, cash flow négatif, etc. Il n'était pas ravi. De manière générale, dans l'industrie, aujourd'hui, EFC, ça n'a pas une super réputation. Mais encore une fois, vous ferez votre propre avis. Donc qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Ne faites pas les mêmes erreurs que moi. L'appartement à Miami, je suis passé par un agent français qui vit à Miami qui s'appelle Paul Debastos, qui m'a été recommandé par Olivier Seban. Et voilà, l'achat s'est très bien passé. C'est un appartement qui m'a coûté quelque chose comme 80 000 $. Et aujourd'hui, il rapporte à peu près 800 $ par mois. Donc, je vous laisse calculer la rentabilité. C'est vraiment, vraiment, vraiment un super investissement. Par contre, là où j'ai fait aussi une erreur, c'est que Paul m'a dit, voilà, tu peux me confier la gestion locative. Il n'y a pas de problème. Je lui ai confié par facilité, alors qu'à la base, ce n'est pas son métier. Et du coup, il a pris une personne qui n'a pas bien fait son boulot. Au bout d'un an, et un peu plus d'un an, il s'en est rendu compte. Il a dit, écoute, voilà, on va arrêter avec la gestion locative. Je vais te recommander une agence qui est très bien. Et voilà, j'ai basculé sur cette agence. Et aujourd'hui, cette agence fonctionne parfaitement. C'est génial. Par contre, voilà, Paul, il y a de l'argent. Il me doit encore à peu près 6 000 $. Et aujourd'hui, il ne répond plus aux mails et tout ça. Je ne sais pas ce qui se passe, mais bon, il y a un problème. Donc, j'ai voulu confier à quelqu'un dont ce n'est pas le métier une tâche que j'aurais pas dû faire. L'opération de Miami est quand même beaucoup plus positive que les opérations d'Elise Franco qui n'a pas photo. Vous allez me dire, alors du coup, Olivier, super, mais est-ce que tu apprends tes propres erreurs? Parce que tout ça, ça vient aussi du fait que voilà, tu investis dans des endroits que tu connais pas et tout ça. Et pourtant, tu nous as dit que tu veux investir dans un immeuble à Montréal, donc un endroit que tu connais pas, où tu as été deux fois dans ta vie. Est-ce que c'est pas une bêtise? Alors déjà, avant de vous répondre, vous pouvez admirer un des magnifiques temples de Kyoto. Il y en a plein comme ça. Ils sont absolument géniaux. Il y en a quelque chose comme 1000 ici. C'est vraiment top. Je pense que c'est quand même intéressant d'investir dans des zones monétaires différentes. À Montréal, en plus, il y a d'autres opportunités que ce qu'on peut trouver en Europe. Donc, c'est aussi intéressant. J'ai vraiment fait attention à ce que les erreurs du passé ne se répètent pas. Donc, déjà, je me suis fait accompagner à toutes les étapes par une amie qui n'a absolument aucun intérêt financier dans l'affaire et qui, en plus, bien sûr, est une experte du sujet puisqu'elle a 97 appartements à 44 ans, tous sur Montréal et aux alentours. Cette amie, c'est Stéphanie Milo, j'ai déjà interviewé sur la chaîne. Vous pouvez aller voir son interview. C'est elle qui m'a mis en relation avec les bons contacts, avec la banque, avec l'agent, avec la gestionnaire immobilière, parce que bien sûr, quelqu'un va gérer ça pour moi. C'est elle qui m'a rassuré sur plein d'éléments, qui m'a expliqué comment fonctionnait le marché, les spécificités du marché québécois. Ensuite, je suis allé à Montréal, je vous ai fait la vidéo, j'ai rencontré l'agent, j'ai visité l'immeuble. J'ai rencontré le propriétaire, j'ai rencontré 3 locataires sur 5, ce qui m'a énormément rassuré sur la qualité des locataires et aussi la qualité de l'immeuble. Après, bien sûr, c'est absolument pas mon métier. Le bâtiment, donc il y a des tas de choses que j'aurais pas pu voir. Donc du coup, j'ai fait inspecter par un inspecteur du bâtiment, donc quelqu'un dont c'est le métier, le bâtiment. Il a trouvé plein de travaux à faire et le propriétaire en a fait beaucoup. Il a fait pour plus de 10 000 dollars de travaux. Et puis j'ai aussi rencontré la banque, on a beaucoup discuté. J'ai vraiment fait en sorte que tout soit beaucoup plus carré. Je suis beaucoup moins parti qu'en mode Indiana Jones comme avant. Je pense que ça va bien se passer. J'ai regardé tous les paramètres et il y a des risques, il y a toujours des risques dans les investissements, mais là je pense que ça va aller beaucoup mieux. Donc j'espère que cet investissement sera bien et que dans un an ou deux ou trois, je vous ferai une vidéo pour dire à quel point c'est génial d'investir à Montréal et peut-être que je pourrais vous recommander des intermédiaires. Mais en attendant, vous avez compris, quand on investit, surtout dans des trucs comme ça où on se forme en même temps, il y a toujours des risques importants. Sur le web, on entend toujours parler des succès, mais les échecs, ça existe aussi. N'oubliez pas, investissez de l'argent comme moi dont vous n'avez pas besoin et soyez toujours prudent dans votre manière d'investir. Vous voyez que malgré ces erreurs, finalement, c'est pas très grave parce que j'ai été quand même prudent à toutes les étapes. Voilà. Donc, si vous aussi vous avez une expérience par rapport à Élise Franck ou Paul de Bastos, qu'elle soit positive ou négative, n'hésitez pas à la mettre dans les commentaires. C'est intéressant d'avoir l'opinion de chacun. Hein. Encore une fois, je ne suis pas là pour pointer du doigt, mais juste pour partager l'expérience qui m'est arrivée et au final mon ressenti final. Et est-ce que je recommande une personne ou pas, tout simplement. Donc, n'hésitez pas à donner aussi votre expérience dans les commentaires. Ça permettra aux gens de se faire un avis plus éclairé. À demain pour la prochaine. En attendant, n'oubliez pas, soyez rebelles, soyez intelligents et faites partie des gens qui se bougent. Ciao.
Hey ! Merci d'avoir écouté ce MP3 qui est tiré d'une vidéo publiée sur la chaîne YouTube. Donc, comme d'habitude, j'ai besoin de votre feedback. Si vous aimez écouter ces podcasts sur iTunes, c'est bien. Allez tout simplement sur iTunes pour noter cette émission. Voilà, donnez-lui une note si vous l'appréciez. Et puis, comme d'habitude, vous pouvez voir les vidéos originales desquelles sont extraits les podcasts en allant sur olivier-roland.tv. Hein, olivier-roland, R-O-L-A-N-D.tv. Merci d'avoir écouté ce podcast. À demain pour de nouvelles aventures dans le prochain.